Un bon boulot, témoignages et discussions sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier, épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot.
Bonjour Thomas Daoulas, vous êtes chirurgien, historien, et à un moment, vous avez été aussi orthésiste, fabriqué des prothèses dans le cadre d'une entreprise privée. Avant d'attaquer proprement dit le boulot de chirurgien, on va revenir en arrière, parce que ce qui est intéressant, c'est le parcours. Comment vous êtes devenu chirurgien? C'est pas forcément un modèle pour tout le monde, mais c'est intéressant de voir comment on devient chirurgien. Et on va partir de jeune. Par exemple, vers début du lycée, aujourd'hui, encore déjà avant, on nous demande ce que vous voulez faire. En général, c'est dur de savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'à ce moment-là, quand quelqu'un vous a posé la question, bon alors Thomas, vous orientez vers quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel genre de réponse vous aviez dans la tête?
Bah, quand j'étais au lycée, pour cette période précisément, je voulais faire une fac d'histoire. Et en aucun cas, je voulais faire autre chose. Donc, je voulais aller en fac d'histoire, histoire des arts préférentiellement, et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc voilà la réponse que je donnais quand on me posait la question.
D'accord, ouais. Donc on vous disait, bon, bah alors il faut aller mieux faire un bac à l'époque, c'était L peut-être,
je sais plus. Je voulais faire un bac L au début.
Et donc là, on était en seconde, vous arrivez en première. Aujourd'hui, c'est les spécialités. À l'époque, c'était soit L, soit... Moi, la mienne, c'était D, A, B, C, D. Et vous avez quand même pris la filière à l'école, mathématiques ou biologie?
J'ai pris physique. J'ai pris physique et filière S. Donc,
oui, oui, d'accord.
Avec physique, quoi. J'ai pas fait L parce que bah on m'avait dit que en fait je pourrais tout à fait faire de l'histoire malgré tout avec une filière S sans problème via une prépa etc et que pouvait y avoir de l'interdisciplinarité déjà assez tôt.
C'est ce que je dis à mon gamin, ouais. C'est le S ça ouvre à tout et le L ça ouvre au L plutôt.
C'est ce qu'on m'avait dit aussi.
Ouais bah c'est encore vrai je crois. Donc, vous faites un bac S, et puis vous êtes toujours à ce moment-là quand même dans l'histoire. En même temps, vous faites de la physique, des maths, et puis à la fin, vous avez votre bac S, peut-être avec mention, et à nouveau, il y a des choix à faire. Et comment ça se passe à ce moment-là?
Eh ben, à ce moment-là, en fait, j'ai suivi un copain que j'admirais énormément et qui m'a dit je vais en médecine, etc. J'avais beaucoup d'admiration pour lui et je me suis dit bah s'il fait ça, c'est que c'est une bonne idée. J'y vais aussi.
Ah c'est vrai.
Ah c'est pas plus compliqué que ça. C'est ouais. C'est quelqu'un qui m'a. Je réfléchis beaucoup, maintenant, mais toute ma formation, j'ai énormément réfléchi sur le modèle, en fait, à suivre et inspirant. Donc, j'essaie de me calquer sur les gens qui m'inspirent et essayer de faire la même chose pour tendre à arriver à tel ou tel niveau d'excellence dans tel ou tel domaine, que ce soit humain, scientifique, technique, etc. Et à chaque fois, je vois des gens, je me dis « Ok, c'est ça que je veux atteindre. » Et je vais essayer de faire la même chose que lui, du coup. Alors bien sûr, j'y arrive jamais exactement comme... c'est justement un but, quoi. Je me dis « Lui, il est exceptionnel. je vais tout faire pour m'en approcher le plus possible.
D'accord, ouais.
Et là, en l'occurrence, ce gars-là, il était en terminale avec moi, et je me disais, j'aimerais bien être aussi brillant que lui, et ouais. Je vais essayer de faire la même chose que ce qu'il fait, et peut-être que... Bon...
D'accord.
Et voilà, c'est des choses...
J'ai vu votre relation avec votre professeur de chirurgie, Monsieur Le Nain, c'est ça?
Oui.
Effectivement, ça avait l'air lui-même vous admirer, j'ai l'impression. Et ouais, c'était réciproque.
Alors, bah, typiquement, Monsieur Hennen, c'est une excellence à laquelle j'aimerais le plus possible me rapprocher, sans jamais avoir la prétention de l'égaler, bien sûr. Mais Monsieur Hennen, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément dans sa façon de sortir du cadre, d'appréhender les choses différemment et de toujours remettre tout en question.
Oui, oui.
Et couplé bien sûr à une excellence chirurgicale, il n'y a pas besoin d'être chirurgien pour voir quand il opère que c'est plus proche de l'art que de l'artisanat.
Oui, oui.
Et ce qui n'est bien sûr pas le cas de tout le monde, moi le premier, mais voilà, autant techniquement que humainement, c'est quelqu'un qui est absolument moteur dans ma façon d'appréhender le soin aujourd'hui. C'est Monsieur Hennen est un élément majeur, bien sûr.
Ouais. Ce que j'ai compris, moi, c'est que en retour, il avait l'air de vous trouver assez brillant.
Bah, je pense qu'on s'est apporté mutuellement, mais il m'a clairement apporté plus que moi.
D'accord.
Ça pose. Enfin...
Mais là, on a fait un pas en avant. On va revenir en arrière. Donc, vous suivez quelqu'un parce qui est inspirant. Et l'histoire, à ce moment-là, vous l'abandonnez ou...
Non, j'ai toujours adoré l'histoire.
Et
je continuais de lire, etc. Des trucs qui maintenant, à l'époque. Je m'intéressais à l'histoire d'une façon aujourd'hui que je trouve hyper répréhensible en m'instruisant d'historien en fait que je considérais comme historien et en fait maintenant que je suis vraiment rentré dans le cœur du travail historique etc avec des vrais historiens je me rends compte que c'est pas du tout des historiens que j'écoutais à l'époque c'était des chroniqueurs qui n'y connaissaient pas grand chose et à commencer par Stéphane Bern etc que j'adorais à l'époque et c'est eux en fait j'ai une position un peu ambivalente vis-à-vis de ces gens-là puisque c'est eux qui m'ont donné le goût de l'histoire mais malheureusement ils instrumentalisent l'histoire pour servir le roman national et je suis tout à fait conscient aujourd'hui que c'est pas ça l'histoire c'est pas comme ça qu'on réfléchit c'est pas comme ça qu'on travaille et tous les historiens avec qui j'ai travaillé me disent la même chose c'est que non ça c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on réfléchit et il ne faut pas écouter ces gens-là.
Pour autant,
c'est eux qui m'ont donné le goût. Je saurais pas me positionner par rapport à ces gens qui quand même m'ont fait rentrer là-dedans, mais malheureusement maintenant je les renie complètement.
Non, mais quelqu'un qui éveille une vocation, une curiosité, déjà merci pour ça.
Bien sûr.
Après.
Et merci à Stéphane Bern si un jour il écoute ça.
Mais après on va l'attaquer quand on va parler de d'épistémologie en science et en histoire, de méthode en histoire. Et justement, vous allez me donner tout à l'heure cette conception que vous avez du métier d'historien, qui est un très beau métier aussi. Ouais. Vous avez fait une prépa, c'est ça?
Non, je fais ma première année de médecine.
Ah oui, direct, voilà. Ouais.
Je me permets juste de faire une petite aparté. Vous m'avez présenté comme historien, je suis pas du tout historien. Qu'on soit bien d'accord.
Ah, ça c'est votre modestie,
Non, c'est pas la modestie. Je ne suis pas historien. Je veux vraiment marteler ça. C'est je suis un chirurgien qui travaille avec des historiens sur des travaux scientifiquement bien menés et qui je pense sont à un haut niveau de technicité, tant méthodologique que technique. Mais moi, dans ce travail-là, je suis le chirurgien. Je ne suis pas historien. Je suis pas chirurgien et historien. Je suis que chirurgien, rien de plus. Et je travaille avec des historiens via des travaux de recherche interdisciplinaires, mais j'ai beaucoup trop de respect pour les historiens et ce qu'ils font et tous les sacrifices qu'ils ont fait pendant leur formation notamment, etc., pour prétendre, moi, parce que j'ai travaillé pendant quelques années avec eux, me dire que je suis leur égal. À aucun moment, j'ai fait d'études d'histoire de l'art. À aucun moment, j'ai un master d'histoire, etc. Donc, je ne suis pas historien. Je suis chirurgien, orthopédiste, mais je ne suis pas historien.
Oui. Ces précautions oratoires posées, bon, on va quand même parler d'histoire un moment, parce que bon, j'avais quand même lu, j'ai oublié les grands chroniqueurs de l'époque romaine.
Cels, Galien.
Ah, vous les avez lus?
Bien sûr.
Et vous avez pris dans vos mains des instruments de l'époque. Bien vous sûr. Avez travaillé avec le latim, pour refaire les objets. Et vous avez même trituré des cadavres pour reproduire les gestes de chirurgiens romains. Et bon, on parlera ça tout à l'heure parce que et vous reprochez d'une certaine manière à Monsieur Bern une forme d'épistémologie, c'est-à-dire quand même vous êtes rentré dans le cambouis de la méthode en histoire, vous savez ce que c'est une archive, etc. Mmh. Mais je comprends le respect que vous avez pour les scientifiques qui sont historiens. On est à l'école de médecine, là. On est en première année. Bon, c'est un peu la course, là. Enfin, c'est réputé très difficile. Vous, ça va, vous le faites. Comment ça se passe,
ouais? C'était très difficile. J'ai pas trop de...
On m'a bien renseigné.
C'était très difficile mais ça a fini par le faire. Voilà.
D'accord.
La première année de médecine, c'est tellement bête et méchant que, voilà, c'était dur, mais ça l'a fait. Voilà.
Okay.
Je saurais pas dire. J'étais très bien entouré. Je remercie mes collègues et amis sans qui tout seul c'est pas possible. Et du coup on s'entraînait, on serrait les coudes, etc.
Ah oui, entre élèves.
Bien sûr, beaucoup d'entraide, beaucoup d'abnégation, et puis ça finit par le faire comme ça. Pas plus compliqué que ça. Hein.
Sans doute, ouais.
Ouais.
Donc on fait première, deuxième, troisième année. À un moment ça bouge. À quel moment on devient interne
à la fin de la sixième année.
Et peut-être avant, déjà, on commence à voir. Ce qui est intéressant, c'est peut-être, je sais pas comment vous avez appris à faire les gestes de base sur des cadavres au départ. Ouais.
Alors, quand on est étudiant en médecine, on a forcément de la formation sur cadavres. En France, en tout cas, on a cette chance. C'est comme du simulateur pour les aviateurs, quoi. Mais ça, c'est plutôt vrai quand on est chirurgien. Quand on étudie en médecine, en fait, on n'a pas besoin de simulateur parce que on n'apprend pas des gestes chirurgicaux. Entre guillemets, tout ce qu'il faut savoir faire, c'est un point de suture, parer une plaie, évider un abcès, etc. Mais c'est toujours bien quand même de le faire sur un cadavre avant, rien que pour apprendre la gestuelle.
Oui, parce que ceux qui font médecine générale, ils font un moment, ils passent aussi quand même dans une salle où ils apprennent à faire une couture.
Bien sûr, un médecin généraliste est tout à fait aussi compétent que moi pour faire un point de suture.
Mais ils le font pas. Mais,
si.
Ils le font plus. Moi j'ai été opéré par un.
Alors. Ils le font plus vraiment.
Ils le font plus aujourd'hui.
Parce que les médecins généralistes ont un des métiers les plus durs de tout le champ de la médecine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils doivent s'occuper de tout. Donc si en plus de ça, ils doivent faire la petite chirurgie, les médecins généralistes seraient ravis d'avoir le temps de faire des points de suture. Il se trouve que là, aujourd'hui, ils ont d'autres problématiques dans la journée qui sont autrement plus rigoristes. Et je pense que là, n'importe quel médecin généraliste qui s'installe maintenant a envie de faire des petits gestes ou de la petite chirurgie dans son cab, etc.
D'accord, c'est un manque de temps.
C'est un manque de temps qui n'est pas du tout valorisé. Si jamais il commence à faire des points de suture par-ci par-là, leur cabinet est, je pense, plus viable. Les médecins généralistes ont un des métiers les plus durs de tout le champ de la médecine.
Ouais, mais ils étaient en grève là il y a pas si longtemps. Hein.
Oui, et ils ont bien raison.
D'accord. Donc vous faites un premier cycle commun à toutes les disciplines de la médecine.
Oui.
Et à un moment, il faut choisir. Alors comment s'est opéré pour vous le choix ?
On passe le concours de l'internat à la fin de la sixième année. Donc maintenant, maintenant ça modifie. Hein. C'est l'EDN. Donc c'est à la fin de la cinquième année, il passe un grand écrit. Et après, il y a un oral avec une mise en situation, etc., qui s'appelle les ECOS. Et bon, bref, le résultat lui-même, c'est qu'à la fin, on arrive à un classement, et ce classement régit, en fait, d'un point de vue national, et la spécialité qu'on va faire, et où. Si on arrive premier, on peut choisir ce qu'on veut, où on veut, et si on arrive dernier, on prend ce qui reste, où il reste.
Ouais.
Donc, classiquement, c'est un peu toujours les mêmes villes qui partent en premier. C'est des villes du sud de la France, Paris, etc. Moi, il se trouve que je voulais absolument rester à Brest. Donc, Brest est moins maintenant, mais était pas trop demandé à l'époque. Ça n'a pas été très compliqué. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour avoir ce qu'on voulait à Brest, quoi.
Et qu'est-ce que vous vouliez, alors?
Moi, je savais pas ce que je voulais. Je voulais juste faire un truc plutôt manuel, parce que j'ai envie de travailler avec mes mains pour avoir j'avais envie d'avoir le résultat du travail de mes mains devant les yeux. Donc plutôt de la chirurgie,
oui.
Mais pas forcément.
Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre?
Les anesthésistes font énormément de gestes.
Ah, c'est vrai?
L'intubation, les intubations difficiles, plein de choses. Franchement, plein de choses. Je suis pas anesthésiste, donc je pourrais pas vous dire, mais les anesthésistes sont, c'est un métier très, très gestuel. Oui, non, les anesthésistes, c'est un métier de haute voltige avec, ils sont anesthésistes réanimateurs et ils doivent savoir gérer les deux champs, hein.
D'accord, moi je les voyais comme des chimistes, mais non, c'est aussi des... Ok.
Non, c'est de la haute voltige, l'anesthésie. Mais du coup, j'hésitais avec ça, j'hésitais peut-être de la chirurgie, peut-être de l'anesthésie, sinon j'aimais bien aussi des trucs très très transversaux, comme l'infectiologie ou des trucs comme ça, parce que ça soulève des problématiques qui sont vraiment actuelles, etc. Donc en fait... j'ai appelé différents internes des différentes spécialités et puis je me suis fait une petite grille de pour et contre.
Oui, simplement.
Et puis le gars que j'ai eu au téléphone pour l'orthopédie, la chirurgie orthopédique, donc la chirurgie des membres et de la colonne vertébrale, me dit voilà, c'est comme ci, comme ça, etc. Je me suis reconnu dans ce qu'il disait et j'ai choisi ça.
Donc vous rentrez, vous êtes interne chirurgien, et à un moment il faut vous remplacer un médecin, et vous avez fait des urgences
Bien sûr.
Ok, voilà. Puis bon, il y a les urgences, l'accident de la route, etc., donc c'est tout sauf standard. Et là vous avez des responsabilités à un moment, des décisions à prendre ou des gestes à faire. Comment ça se passe sur les premiers cas que vous rencontrez?
Quand j'étais interne ou étudiant en médecine?
Interne. Quand je dis interne. Non, c'est la première fois que vous êtes devant, c'est à vous de décider, en fait.
Il y a
quatre personnes autour de vous qui vous regardent, c'est vous de prendre la décision.
Ouais, la responsabilité, elle est diluée très, très progressivement. Parce que déjà, quand on est en troisième année de médecine, on rentre déjà à l'hôpital. Et puis moi, un gars en troisième année qui arrive à l'hôpital et on est face à une situation, j'ai pour habitude de lui demander qu'est-ce que t'en penses. Parce que je pense que c'est mon rôle aussi de le responsabiliser. Du coup, je lui demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu ferais? Et bon, bien sûr, il ou elle n'en a aucune idée parce qu'il est que en troisième année. Évidemment, et c'est normal. Mais juste pour, regarde ça. Maintenant, bientôt, c'est ton tour. Donc, et puis après, en quatrième année, on commence les premières gardes d'urgence. Et puis là, le médecin nous dit, au 7, tu vas faire les points de suture. Du coup, là, on commence à trembler, machin. Et donc, on y va. C'est pas fameux au début, mais c'est pas grave. Le chef revient et puis, ouais, c'est pas trop mal. Allez, c'est bon. Et puis,
derrière, il y a quelqu'un qui vit, quand même.
Oui, mais bon, si c'est un point de suture, c'est un point de suture, qui est pas forcément très droit, la cicatrice sera exactement la même, mais c'est juste que c'est peut-être un peu moins élégant, ou peut-être qu'on a mis 10 minutes de plus.
C'est ça la variable.
Mais il regarde et fait, ouais, t'as mis un quart d'heure pour faire ça. Bon. Tu iras plus vite la prochaine fois. Mais tout ce qui compte, c'est que le résultat soit optimal pour le patient.
Oui.
Et au moindre doute, moi, s'il y a un externe en quatrième année que je dis finis les trois derniers points de suture, l'immense majorité du temps, c'est bien. Et des fois, c'est pas parfait. Je coupe le point et on le refait. Je ne laisse jamais un étudiant en médecine faire un geste qui, mal fait, ne pourra pas être refait.
D'accord.
Voilà. Un point de suture, on peut le refaire à l'infini. Ça pose aucun problème. Si le nœud, il est pas assez serré ou trop serré, machin, on refait. Les lacets de vos chaussures, vous pouvez les refaire à l'infini si c'est pas parfait.
Oui,
d'accord?
Oui.
S'ils se défont dans la rue, on refait. Et ben là, c'est la même chose.
D'accord.
Et par contre, faire une ostéotomie, couper un os, etc., jamais un étudiant en médecine ne fera ça, en tout cas avec moi, puisque si c'est pas parfait, là, c'est trop tard. Et donc voilà. Donc en fait, les responsabilités sont diluées progressivement. Au début, on commence à faire des choses qui n'ont aucun impact si on fait pas parfait. Puis moitié, etc. Et puis en fait, on arrive de plus en plus dur. Et puis finalement, on se dit là, j'ai fait un truc difficile. Personne n'est venu me voir et je suis sûr de moi. Et en fait, il y a aucun moment où il y a pas de point de rupture en particulier où on se dit là, c'est bon, je suis tout seul. Ça existe pas. C'est très très progressif.
Même aux urgences, parce qu'aux urgences, c'est l'urgence, et il y a une variété de blessures qui arrivent.
Oui.
Quelquefois, les internes sont seuls, j'ai l'impression, dans les urgences.
Oui, mais encore une fois, l'interne, il est seul, mais officiellement, il a le droit de demander à un chef quand il veut. Et moi, mes collègues internes, qui sont, pour l'immense majorité des gars et des filles, d'ailleurs, et des filles, Parce que là, aujourd'hui, dans une promo de 17 nouveaux chirurgiens, il y a 16 femmes. 16 femmes.
Sur 17 ?
Sur 17.
Ah, ça a basculé totalement.
Ah, complètement. Et c'est une très bonne chose. Mais là, sur 17 chirurgiens qui viennent d'arriver, il y a 16 femmes. Un seul homme qui est un jeune interne de chirurgie plastique qui est très très bien. Et les 17 autres, c'est que des femmes. Donc maintenant, voilà. Donc on devrait dire chirurgienne de façon normale, parce que chirurgien, c'est plus l'exception.
Oui.
C'est pas encore le cas. Mais ça sera bientôt le cas. Et c'est une bonne chose. Il y a plein de papiers scientifiques qui montrent que les femmes opèrent factuellement mieux que les hommes, donc c'est plutôt pas mal.
Ah bon?
Ah oui, oui. Oui, c'est difficile à dire pourquoi, mais factuellement, c'est scientifiquement prouvé. Il y a quand même pas mal de papiers dans la littérature qui disent que si vous devez choisir, faites-vous opérer plutôt par une femme, puisque les résultats seront meilleurs.
D'accord, mais je vais pas oublier.
Ça pousse à l'humilité, mais on ne sait pas encore vraiment pourquoi. Mais factuellement, vous regardez sur PubMed, donc la banque de données internationale, oui. Vous regardez sur PubMed, il y a pas mal de papiers bien menés qui comparent les résultats des chirurgiennes et des chirurgiens. Les chirurgiennes ont des meilleurs résultats. Voilà, c'est comme ça. On doit l'accepter. C'est un fait. Maintenant, on reste à savoir pourquoi. Mais c'est factuel. Les chirurgiennes opèrent mieux que les chirurgiens. Tout ça pour dire que les internes qui sont aux urgences. Moi, mon interne qui est aux urgences et qui réalise un geste, à tout moment, il peut m'appeler, à n'importe quel moment de la nuit, et s'il y a un problème, je viens.
C'est vrai, tous les chirurgiens font ça, parce que
bien sûr.
Il peut y avoir la peur, il y a eu des histoires comme ça, on
la a peur osé d'appeler
le chef. Un gynéco, par exemple, à temps. Et
oui, bien sûr, mais c'est une peur que j'espère mes internes n'ont pas vis-à-vis de moi.
D'accord.
Parce que je répète tout le temps, tu m'appelles, s'il y a moins de problème, même si c'est un truc à la con, je viens. C'est mon rôle, je suis payé pour ça. Donc, parce que moi, quand j'étais interne, c'était pareil. Moi, j'ai jamais eu peur d'appeler mon chef.
Hein. Non.
J'ai jamais eu peur d'appeler mon chef. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai appelé plusieurs fois pour des trucs à la con.
Ah ouais.
Et qu'ils sont venus.
Ils
sont venus, non. Non.
Bon.
Jamais on m'a reproché d'avoir appelé. Jamais.
Jamais.
En 6 ans, on m'a jamais reproché d'avoir appelé en pleine nuit à 4h du matin, machin. Ça ne m'est jamais arrivé.
Dans ce cas-là, ils viennent quand vous l'appelez ou alors
ça dépend.
Ça peut être réglé par téléphone.
Ouais. Ça aussi, ça peut être réglé par téléphone. L'immense majorité du temps, ça se règle par téléphone.
Mmh.
Mais des fois, je dis non, mais là, je m'en sors pas. J'aimerais que tu viennes, etc. Et je dis pas que. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Je suppose qu'il y a des chus ou il y a des tyrans qui font peur. Mais à Brest, je me suis formé à Montpellier, je me suis formé à Nantes. Brest, Nantes, Montpellier, je n'ai jamais eu le reproche d'avoir appelé en pleine nuit. Jamais.
D'accord.
À l'inverse, on m'a déjà fait le reproche de ne pas avoir appelé.
Ah, mais peut-être vous êtes, pas kamikaze, mais
On m'a déjà
audacieux.
Fait. Ouais, peut-être. Ouais.
Mais peut-être. Vous l'avez fait à juste titre de pas appeler, ouais.
Bah non, parce que c'est quelque chose que je pouvais faire tout seul. Je savais que je pouvais le faire et à Montpellier, j'ai un de mes chefs qui, à juste titre, m'a dit là, t'aurais peut-être dû me dire quand même. J'aurais bien aimé être là pour te superviser.
Ça, c'est quelque chose de difficile. Moi, je vois dans d'autres cas, savoir ce qu'on sait, ce qu'on sait pas et.
Ouais. Où s'arrête nos...
Et savoir où est le danger.
Bien sûr.
C'est quelque chose de très difficile.
Je trouve que là, en l'occurrence, il n'y avait pas eu de problème. J'avais fait le geste, etc. Mmh. Mais s'il y avait eu un problème, là, pour le coup, ça aurait été chiant. Et c'est vrai que, moi, on m'a plutôt tendu à dire que je n'appelais pas assez, plutôt que j'ai appelé trop. Et en fait, ça dépend vraiment des personnalités des gens.
Oui.
Mais, après, c'est pas un reproche qu'on m'a fait non plus.
Non. Ouais. Oui. OK. Donc là on voit le parcours, bon ça se fait assez c'est pas facilement mais presque enfin sans grave inquiétude en tout cas ouais.
Non, pas d'inquiétude.
Et on va rentrer dans le métier maintenant un peu plus fort. Peut-être tout simplement peut-être vous pourriez présenter on peut pas y accéder là, c'est dommage mais on va faire une visite virtuelle de la salle d'opération de l'hôpital de Landerneau. Ce qui me semble intéressant c'est les outils. La configuration, mais quand j'entends les outils, c'est tout, y compris les moyens d'asepsie, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler là-dedans, les gens qui sont présents, la chimie aussi, enfin, les produits qui sont là, etc. Et après, on parlera peut-être avant, parce que vous disiez que c'est important, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est l'interview, évidemment, la rencontre avec le malade, et savoir ce identifier ses besoins. D'abord, là, on rentre dans la salle d'opération de chirurgie de Landerneau. Voilà. Est-ce que vous pouvez la décrire?
Alors, bon, moi, je suis que un jour par semaine à Landerneau, sinon je suis tout le temps à la Cavale Blanche.
Ah ben, on peut faire les deux. On visite Landerneau et après on va visiter la Cavale Blanche. C'est l'intérêt du virtuel.
Alors, classiquement, c'est vrai que j'opère quand même beaucoup plus à la Cavale.
On pourrait même comparer les salles.
Les deux, sont très différentes. Le bloc opérateur de Landerneau, c'est petit.
Quelle surface?
Oh là, j'en ai aucune idée.
30 mètres carrés, 50.
La salle d'opération?
Ouais.
La salle d'opération?
100, peut-être.
Je dirais 40 mètres carrés.
D'accord, ouais.
Et, peut-être moins. Oh là,
c'est pas grave.
Je suis nul en explication.
Il y a une table, il y a la lumière au-dessus.
Il y a une table, la table qui est centrale, ce qu'on appelle les cialytiques, c'est des grands spots lumineux qu'on met au-dessus pour cibler la lumière à un endroit précis. Et le malade qui est sur la table.
Et les outils, c'est important.
Les outils, quand on rentre dans la salle, ils sont pas encore sortis normalement, parce que.
Ah d'accord, ok. Alors, on rentre dans la salle, il y a la personne qui est là,
voilà,
que vous connaissez, vous la reconnaissez.
Alors pas toujours. Si c'est une urgence, en général, c'est mon interne qui a vu le patient aux urgences, qui lui a expliqué, etc. Et moi, je rentre dans la salle, et si c'est une urgence, je le vois pour la première fois. Donc, si c'est pas une urgence et que c'est un patient que j'ai vu, que j'ai programmé, évidemment, je le connais. Mais là, tout à l'heure, par exemple, les patients que j'ai vus, c'est mon interne qui les a vus aux urgences, qui a identifié le problème, etc., qui me donne un coup de fil, et au moindre souci, je vais avec lui pour valider l'indication chirurgicale, mais au bout d'un moment, on se connaît par cœur, et c'est vraiment un couple interne-chef, et il me dit, il y a ça, je fais ok, pas de problème.
C'est une partie très importante, ouais. C'est un travail collectif.
C'est la relation, bien sûr, c'est un travail collectif. Et autant en premier, tout début de première année d'internat, moi je vais contrôler tout le temps, mais le gars ou la fille, elle est en dernière année d'internat, etc., quasiment chirurgienne. Et donc, j'ai plus besoin de contrôler quoi que ce soit. Elle peut tout faire toute seule en autonomie. Donc là, en l'occurrence, c'était le cas, patient.
Une question m'est venue que je n'avais pas prévue. Vous rentrez dans une salle, vous allez opérer. On m'a dit, vous opérez des mains, des bras, des jambes. Et vous voyez un corps. La personne est endormie quand vous rentrez?
Alors non, j'essaie toujours de rencontrer le patient avant qu'il dorme.
Ah, quand même, ouais.
Mais de toute façon, moi, je fais surtout de la chirurgie de la main et les patients en main ne sont pas endormis complètement. On leur endort que le bras.
D'accord, ouais, c'est pas pareil, ouais.
Donc je peux leur parler.
Parce que c'est intéressant de voir comment un chirurgien regarde un corps, comment vous regardez une main.
Alors moi, j'ai pour habitude de discuter avec le patient pendant que j'opère.
Ah, c'est vrai.
Donc en fait, quand je commence à l'opérer, c'est là où j'aime bien discuter avec lui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Même si je le sais déjà.
Ouais, parce que par exemple, les mains d'un maçon, c'est pas les mêmes que d'un enseignant.
Non, mais c'est même pas ça. C'est juste pour discuter. J'aime bien discuter avec mon patient quand je l'opère.
D'accord.
C'est quelque chose que j'aime bien faire à titre personnel. Voilà,
Ça vous déconcentre pas,
non? Ah non, pas du tout. Au contraire, ça me permet de garder un lien d'humanité avec je vais opérer un tendon et je vais réparer ce tendon, ce nerf, cette artère, cet os, etc. Mais quand je discute avec le patient, je garde ce lien de je vais opérer le tendon de Monsieur Kermarek.
C'est super.
Et parce que je discute avec lui. Mais si je discute pas avec lui, d'un coup, je déshumanise et je répare une machine. Alors que si je discute avec le patient, d'un coup, il y a des affects qui se créent et j'ai l'impression que ça m'aide à faire mon travail. Mais en tout cas, c'est ma façon d'appréhender le geste technique. C'est d'humaniser en permanence pendant que j'opère. Donc j'ai pour habitude de discuter avec le patient quand il dort pas.
Vous avez quelqu'un qui a un problème de tendon à la main déjà ou à l'extérieur de vous rentrez pas, vous avez rien découpé.
Si c'est coupé la main, s'il a mis la main dans la tondeuse,
ce que je voulais dire,
c'est classique, ce que je vous dis, hein. C'est grand classique, hein. C'est la main dans la tondeuse.
On va dire qu'il a pas la main dans la tondeuse, mais il y a un bras qui bouge plus pour une raison X.
Ok. Ouais.
De l'extérieur, vous pouvez voir des choses déjà.
Bien sûr.
Ah ouais.
Ce qu'on appelle la sémiologie, l'analyse des signes.
Sémiologie, ouais, voilà, ouais. Donc vous regardez, vous faites bouger, ou vous.
Ah oui, bien sûr. C'est l'examination du malade, l'examination de la plaie, etc. Enfin, c'est.
La couleur de la peau,
bien sûr, tout. Mais ça, c'est quelque chose que l'interne doit avoir fait avant, en urgence, et aux urgences, dans le bloc des urgences, et si et au moindre doute, évidemment, c'est quelque chose, mon travail d'aller le faire moi-même, bien sûr. Mmh. Il se trouve que l'interne au CHU a la capacité, a le droit de le faire, mais moi, mon devoir, c'est aussi de répondre présent dès qu'il a une question et de venir examiner le malade avec lui.
D'accord. Oui.
Donc, on n'est pas obligé de voir le patient en urgence avant de l'opérer officiellement, parce que je peux le rencontrer en fait dans la salle de réveil avant l'intervention. Mais au moindre doute, l'interne m'appelle et j'y vais évidemment. Et ce serait une erreur de ne pas aider les jeunes.
Oui, oui.
Parce que ça, on va créer. Si on fait ça, un jour, on va y avoir une bêtise qui sera faite et le patient sera sur la table alors qu'il ne doit pas être opéré.
Et autour de vous, il y a des infirmiers, des infirmières.
Alors évidemment, c'est le plus important, parce qu'en fait, le chirurgien, c'est ce que je prône.
Mais ça, c'est votre modestie ou alors votre revendication politique presque de l'infirmière va être plus importante que le chirurgien.
Alors en fait, c'est un peu vrai, parce que qu'est-ce qui diffère entre moi et un chirurgien il y a 2000 ans? Mes mains, c'est les mêmes. Ma dextérité, c'est la même. Mon cerveau, c'est le même. Donc, je réfléchis pas mieux ni moins bien. Qu'est-ce qui change?
Ce qui change, c'est que le malade hurle pas.
Déjà. Bah voilà. Donc, c'est l'anesthésiste. C'est pas moi. Ce qui change, c'est l'asepsie. L'asepsie, c'est l'infirmière qui est en charge de l'asepsie pendant l'intervention et qui est la garde de l'asepsie pendant l'intervention. C'est l'infirmière. L'infirmière instrumentiste, donc.
Non, mais ce qui change, c'est aussi toutes les simulations que vous avez déjà fait avant.
Oui, mais ce qui existe
toute votre
déjà.
Représentation du corps, de ses vénules, de ses veines, ouais. De ses artères, de ses tissus, de la
mais
composition des tissus.
Mais les dissections existent depuis au moins 2000 ans, n'ont jamais cessé. La légende qui dit qu'au Moyen Âge les dissections étaient interdites est complètement construite et totalement fausse. Il y a des dissections.
J'ai vu qu'on opérait de la cataracte depuis des siècles.
Depuis des millénaires.
Des millénaires, moi. Enfin, je préfère aujourd'hui, mais bon.
Ah oui, c'est sûr. Mais pour autant, on opérait la cataracte depuis des millénaires. Ouais.
Donc, il y a les infirmières. Voilà, je reviens en arrière. Il y a les infirmières. Vous voyez, je dis infirmière et chirurgien. C'est terrible.
C'est terrible. Je suis d'accord.
Donc, il y a une chirurgienne et il y a un infirmier.
Ouais. Statistiquement, vous allez avoir une chirurgienne et une infirmière. Statistiquement.
Et le rôle des infirmiers, ça va être de quoi? De moi, dans mon image, c'est qu'ils passent de la bétadine, où ils vous passent les instruments. Enfin, c'est ce qu'on voit dans le film américain.
Déjà, il y a une infirmière ou un infirmier qui est en charge de l'anesthésie, de contrôler si le patient est bien anesthésié, si tout va bien au niveau de ses constantes, il contrôle son rythme cardiaque, sa tension, etc. Donc ça, c'est l'IAD, il est infirmier anesthésiste. Donc c'est un peu le bras droit de l'anesthésiste qui est en salle. L'anesthésiste n'est pas en salle quand j'opère. Il est en train de faire.
Il a fait son travail avant.
Il a fait son travail avant et lui il est en train de faire plein d'autres trucs. Et il y a un anesthésiste.
Il fait plein de trucs toujours sur la même personne.
Non, sur
il fait autre chose.
Ouais, voilà. Il est en train de gérer je sais pas quel patient à extuber je sais pas où. Etc.
Il a donné les variables à l'infirmier.
Voilà.
Comment on dit anesthésiste.
Infirmier anesthésiste.
Et...
L'IAD.
Comment?
Infirmière anesthésiste diplômée d'État. L'IAD.
D'accord. Ouais.
Et donc l'IAD se charge en fait d'appliquer le plan de l'anesthésiste, mais a bien sûr aussi une expertise. Dans l'immense majorité des cas, toutes les petites variables à ajuster, c'est l'IAD qui le fait en autonomie.
D'accord.
Et sans l'anesthésiste.
Donc ça c'est l'anesthésie.
Ça c'est l'infirmier.
Le relais de l'anesthésie et il y a d'autres.
Et il y a l'IBOD, donc l'infirmier de bloc opératoire diplômé d'État, l'IBOD, qui est en fait mon instrumentiste. Qui me donne les instruments, mais qui a aussi préparé le matériel, préparé l'intervention en amont, et qui du coup, de facto, a compris ce que j'allais faire.
De quelle manière il prépare l'intervention?
Bah parce que moi, je lui dis qu'est-ce qu'on va prendre, mais en fait, l'immense majorité du temps, j'ai même pas besoin de dire. Un vieil IBOD peut quasiment réaliser une intervention chirurgicale complexe tout seul, bien sûr, bien sûr.
D'accord.
C'est en tout cas sans forcément le réaliser. Anticipe l'intégralité des gestes et je tends la main et j'ai le truc qui me tombe dans la main sans même que je l'ai demandé.
Ah, parce qu'il est dans votre
voire
cerveau,
même
presque.
Voire même c'est l'inverse, c'est je tends la main, je demande un instrument, il me dit non.
c'est pas la hache,
t'as oublié de faire ça ou bien ou je serais toi, je prendrais plutôt ci, ça machin et tout. Et en général quand l'IBOD nous dit ça, faut mieux écouter.
Mais là, vous décrivez un idéal.
Non, c'est pas un idéal.
C'est pas un idéal, c'est comme
ça. C'est la vie
marche.
De tous les jours. Moi, là, si l'IBOD me donne un conseil, je vais pas forcément le suivre, mais en tout cas, je vais l'écouter. Je peux tout à fait dire non, parce que je préfère, attends, parce que c'est inhabituel, je préfère faire ci comme ça et machin. J'ai mon libre arbitre, évidemment, mais l'e-bot qui me donne un conseil, que je l'écoute ou pas, je vais l'écouter. Enfin, que je le suis ou pas, je vais l'écouter. Parce que c'est jamais aberrant. C'est toujours un conseil qui est fondé sur quelque chose qu'il a vu avant.
Bah forcément, oui. Donc, parce que lui aussi a une expérience, ouais.
Bah oui. Donc les e-bots de 50 ans ont vu beaucoup plus d'interventions chirurgicales que moi. Donc ont vu beaucoup plus de situations complexes, etc. Et donc quand on me donne un conseil, je l'écoute. Je veux pas forcément faire ce qu'on me dit de faire parce que c'est mon libre arbitre de chirurgien.
Ouais.
Mais
écoute, c'est collectif encore une fois.
Ah bien sûr. Et il y a un infirmier ou une infirmière circulant, donc qui n'est pas habillé. Donc quand on dit habillé, c'est qu'on est en stérile. Qui est en gros, on est deux habillés, donc deux habillés en stérile. Donc moi et l'ibode. Parfois l'interne, donc des fois on est trois sur le champ, ce qui est beaucoup. L'interne du coup est avec moi pour opérer. Et l'ibode qui est instrumente, qui me donne les instruments. Mais l'immense majorité du temps, on est deux. Donc il y a moi et l'instrumentiste, que ce soit l'interne ou l'infirmière, et une infirmière qui est circulante, donc qui n'est pas stérile et qui nous donne les instruments au fur et à mesure si on a oublié des trucs.
Mmh. Alors on va arriver à ces instruments justement. Est-ce que vous pourriez décrire le commun du chirurgien, enfin les instruments les plus fréquents dans un bloc opératoire. D'abord peut-être en parler des outils du menuisier. Et après des machines qui mesurent toutes les constantes. Enfin.
Je me permettrai pas de répondre pour le commun du chirurgien parce que moi je suis chirurgien orthopédiste.
Donc déjà, le commun des chirurgiens orthopédistes,
bien sûr.
De Landerneau.
De Landerneau. Du coup moi c'est pas compliqué. Pour la chirurgie de la main, c'est une chirurgie qui est très très résiliente. J'ai besoin de très peu de choses.
Résiliente, ça veut dire que ça se guérit vite.
Non, une chirurgie résiliente, ça veut dire, enfin, j'appelle une chirurgie résiliente, c'est une chirurgie qui est très peu demandeuse en matériel.
D'accord.
Donc j'ai besoin systématiquement d'un bistouri, d'une pince, d'une paire de ciseaux.
Bistouri, c'est un scalpel, quoi.
Un scalpel, voilà. On dit un bistouri.
Mais scalpel, on voit le tranchant, c'est plus.
Ouais, on va dire un scalpel alors, mais c'est pas le vrai terme. Hein. Mais du coup, donc j'ai un scalpel, une pince, une paire de ciseaux, et c'est presque tout. Là, on a fait le tour.
La pince, c'est pour écarter, saisir.
C'est pour tenir mes, c'est ma fourchette et mon couteau. J'ai besoin de deux trucs pour mobiliser les éléments. Et alors pour couper, normalement, on coupe pas beaucoup de choses quand on opère. On dissise, on sépare des structures, etc. Mais on n'est pas censé couper beaucoup de choses.
Non, non.
On est là pour réparer les choses qui sont déjà coupées. Mais couper, c'est pas.
Quelquefois, il faut aller voir. Et donc, si vous opérez un cœur, encore que maintenant.
Alors moi, j'ai jamais opéré de cœur.
Vous n'avez pas opéré de cœur.
Et je permettrai pas de dire ce qu'il faut faire pour aller opérer un cœur, parce que j'en ai aucune idée. Je vais raconter des bêtises. Mais pour opérer, par exemple, un nerf coupé dans la main, pour aller le voir, effectivement, il faut plonger dans la main, mais en aucun cas couper des choses. On va séparer les éléments.
On les écarte.
On les met en évidence et puis on les protège. Et après, on arrive sur le nerf coupé et on répare le nerf. C'est ce que j'ai fait là, il y a une demi-heure.
Vous avez opéré une main?
Un nerf, précisément.
D'accord.
Je vous dis l'exemple du nerf parce que c'est ce que je viens de faire à l'instant, mais ça pourrait être autre chose.
Ouais, ouais. Et pour voir, on a les yeux, mais on a aussi les radios, les scanners, les imageries multiples et diverses.
Moi, j'opère toujours avec mes loupes quand je suis en train d'opérer, pour les mains. C'est tellement petit que, hop.
Donc là, on voit une paire de lunettes. Enfin, ça ressemble à une paire de lunettes avec deux loupes, comme un joaillier un peu.
Exactement. C'est des lunettes qui sont spécifiquement faites pour mes yeux. Et là, ce que je vois, c'est ce que vous voyez, mais grossi 4,5 fois.
D'accord.
Donc c'est comme un mini microscope qui est sur mes yeux.
Ouais, mais ça vous fait pas voir à travers quelque chose, à travers un tissu.
Ah non. Ouais. Ça me fait juste voir en très gros.
Quelquefois, vous avez besoin de voir à travers un tissu, non? Ou alors savoir ce qui est, non?
Ah, bah oui, c'est la radiologie.
C'est pour ça qu'on fait de la radio.
Bien sûr. Mais alors ça, on est censé l'avoir fait avant l'intervention.
Ouais, ça, vous avez étudié l'image.
Ah oui. Bien sûr.
D'accord. Et, vous n'avez pas grand chose, vous avez deux outils.
On n'a pas grand chose.
Je comprends que l'e-bot, là, c'est pas compliqué. C'est l'un ou l'autre.
Alors si, l'e-bot, c'est très compliqué parce que l'e-bot, il est censé anticiper tous mes gestes.
Oui, c'est plus qu'un outil, il anticipe les gestes.
L'e-bot, c'est l'anticipation. Et du coup, bah forcément, ça sous-entend qu'il a compris tout ce que j'allais faire en amont, voire même la correction, parce qu'encore une fois, l'Ibot, des fois, nous dit « Bah non, attends, t'as oublié de faire ci, tu devrais faire ça, etc. » Et l'Ibot, c'est vraiment, c'est pas... c'est le terme d'instrumentiste n'est pas vraiment correct, parce que c'est plutôt une aide opératoire.
Ouais.
L'Ibot, c'est une aide opératoire. C'est, il va m'instrumenter, il va me donner les instruments, etc. Mais il va aussi me conseiller, m'avertir quand il y a un problème, que j'aurais pas forcément vu, etc.
Ou en cas de doute, c'est bien d'avoir...
C'est un vrai copilote.
Ouais, ouais.
C'est l'Ibot qui m'instrumente, en tout cas, je trouve que ce serait une erreur de considérer l'Ibot que comme un instrumentiste, parce que ce serait se priver d'une expertise qu'elle a et, qui est drôlement utile.
C'est ça le problème. C'est là, on touche un point qui me plaît beaucoup au boulot. C'est-à-dire, on veut penser à la place des gens et qui on travaille, et du coup, on leur donne des procédures. Et en leur donnant une procédure toute fabriquée, on perd leur capacité d'autonomie et d'intervention, même.
Bien sûr. Et les Ibot ont une capacité d'autonomie monumentale. Et,
ils ont quoi comme formation,
Bah, c'est des infirmiers qui ont fait en plus une formation d'Ibot. D'accord. Donc, c'est dur, c'est long. Ils ont, je pense que c'est bac plus 5, un truc comme ça. Je dis peut-être des conneries. C'est peut-être bac plus, c'est peut-être plus.
En tout cas, c'est des formations complémentaires.
En tout cas, c'est une formation complémentaire avec un concours, c'est difficile, c'est long, etc. Et donc, c'est une vraie expertise, quoi.
Ouais. On a vu les couteaux, on a vu la table, on a vu le personnel. Ouais, sur les autres instruments qui m'impressionnent toujours.
On a oublié
Là où ça bip partout.
Mais on a oublié un personnel capital. On a oublié.
Celui qui fait la sepsie, peut-être.
Bah oui. Les aides-soignants qui, entre les interventions, viennent faire le ménage dans la salle. Et qui brancardent le patient, qui l'accompagnent, qui discutent avec lui, qui auront un soutien psychologique énorme parce que le patient, il a plein de questions et les aides-soignants, ils y rassurent, etc. Ils le conditionnent. Et les aides-soignants, bah, sans eux, en fait, on peut pas opérer.
Oui, non, mais c'est, faut restituer tout, c'est sûr.
Ah bah oui, mais c'est une armée. Il faut une armée. C'est comme pour faire voler un avion. Il faut une armée un rafale. Il faut une armée.
Il faut de la cohérence.
Bah là,
donc il faut de l'histoire. Faut pas bousculer les gens qui, quand on a un travail, qui prennent le temps de.
Bah et donc pour opérer un patient, bah si on est tout seul, c'est impossible.
Ouais.
Voilà. Ou bien, si c'est possible, mais à ce moment-là, on fait de la chirurgie de antique, il y a 2000 ans. Moi, le chirurgien, sans tous ces gens-là autour de moi, je me retrouve à faire de la chirurgie comme il y a 2000 ans. Pour autant, j'ai des connaissances, etc. Mais sans ces gens-là, j'ai les mêmes capacités d'intervention que quelqu'un d'il y a 2000 ans.
Vous pourriez anesthésier quelqu'un,
peut-être. Oui, mais faut-il encore avoir les produits, etc.
Oui.
Bien sûr, je peux anesthésier. En fait, en soi, je peux être autonome de partout. Mais alors à ce moment-là, faut que je me démultiplie, quoi.
Oui, non, mais c'est évident qu'il faut une équipe, ça.
Il faut une équipe,
oui. Et les outils qui font bip partout, qui font des lumières, tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est des. on mesure le cœur, c'est ça, le battement du cœur?
Bah alors ça, c'est l'IAD. C'est l'IAD pendant l'intervention, l'infirmière anesthésiste, qui.
Oui, c'est elle qui s'occupe de ça, ouais.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre instrument?
J'ai mon cautère. Le cautère.
Cautère, c'est pour.
C'est pour brûler. C'est pour. Non, c'est pour brûler. C'est pour cautériser. Donc c'est.
C'est un fer à souder.
C'est à l'époque, donc on prenait des grandes palettes, en fer qu'on faisait chauffer au fer rouge et on le pose sur les tissus qui saignent et là ça saigne plus. Et maintenant on n'a plus ça. Maintenant on a des cautères électriques, donc on appelle des pinces bipolaires ou des bistouts électriques,
qui sont plus précis
et puis qui sont beaucoup moins agressifs pour les tissus et qui permettent d'être beaucoup plus ciblés en fait sur la zone à cautériser. Mais le bistouet électrique et la pince bipolaire et tout, c'est des cautères ni plus ni moins. Des cautères.
Ouais, mais enfin qui ont gagné en précision.
Et ça, effectivement, ça fait bip et ça fait de la lumière.
D'accord. Là, on a fait le tour de Landerneau.
On a fait le tour de Landerneau, oui, je pense. Ouais, c'est.
Alors, on pourrait partir de cette description et ajouter des éléments pour arriver au CHU de Brest, peut-être.
Le CHU, c'est à peu près la même chose, mais il y a beaucoup plus de salles. C'est très grand. Il y a de la chirurgie de haute voltige. Des fois, je regarde un petit peu, je trouve, oulala. Moi, j'ai l'air malin avec mes fractures de doigts.
Mais votre voltige, là, c'est quoi, gastrique?
Bah, là, non, mais il y a un gars qui a littéralement un cœur entre les deux mains, etc. Bon, bah, voilà, je regarde par la fenêtre, ça fait relativiser, je me dis, bon, je suis plus proche, enfin, je suis, Oui, c'est compliqué, mais bon, le gars, il a le cœur dans les mains, quoi. Ou bien le gars, il est en train d'opérer un crâne, il est dans la boîte crânienne du patient, etc. Bon, là, je suis en train d'opérer ma main.
Oui, une tumeur du cerveau, par exemple, faut percer, faut.
Voilà, je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ça a l'air compliqué. Et c'est sûr que quand je le vois opérer, je suis impressionné.
Vous assistez à des opérations de collègues?
Bah, des fois, je vais voir, ouais, bien sûr. C'est très intéressant. Et du coup, à la cale blanche, c'est plus gros. On a beaucoup plus de matériel à disposition. On a tout ce qu'on veut.
Tout ce qu'on veut, c'est quoi alors?
C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, si je veux faire une intervention avec du matériel très spécifique à Landerneau, il faut que je commande le matériel parce que c'est normal. C'est un hôpital plus petit, donc on peut pas avoir tout le matériel du monde à disposition tout de suite.
Mmh. Quel type de matériel pourrez-vous manquer?
Par exemple, une prothèse d'épaule. Une prothèse d'épaule qu'il faut commander et du coup elle va venir
à Brest. Ils l'ont sur place?
Ouais, ils l'ont sur place.
Ils ont le casier à prothèse épaule genou.
Voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Et ça, c'est les e-bot qui s'en chargent.
D'accord.
Et donc, si je veux faire une prothèse, eh ben il faut que le matin j'appelle la cavale blanche pour qu'il me l'envoie rapidos. Et si j'anticipe pas bien, la prothèse je l'opérerai demain, quoi.
Ah oui.
Voilà. Donc ça, c'est des choses, mais c'est normal. Dans un petit hôpital, on peut pas avoir tout.
Bien sûr,
c'est pas possible. Et dans un CHU, le CHU, c'est la caverne d'Ali Baba. On a tout de suite, toujours, quasiment.
On va développer après sur la haute technologie, les robots, par exemple, mais un peu plus tard. À ce stade, on voit assez bien votre métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est rentrer dans votre savoir-faire. C'est compliqué de raconter son savoir-faire. En général, on pose ça comme évident. Comme on est pas un marin, comment on barre un voilier? Vous voyez, tu barres. Voilà. Mmh. Sauf que c'est pas vrai. Il y a des tas de trucs qui se passent dans la main, dans le corps, etc., qui fait qu'on va barrer bien ou mal. Comme ça, au débeauté, quelles sont les compétences spécifiques, ouais, d'un chirurgien? Ce qui vraiment fait qu'il va faire la différence entre un bon et un mauvais, ou fait que ça va marcher, pas marcher. Où est votre intelligence au bout de vos doigts, dans vos livres, les compétences.
Pour moi, il y a deux, en tout cas en chirurgie orthopédique, il y a deux compétences qui sont incontournables et sans lesquelles, par définition, on est un mauvais chirurgien. C'est un, la remise en question. Donc, ça veut dire que
c'est une attitude, c'est une posture, ça.
Ouais, mais quand il y a une intervention qui se passe pas exactement comme on voulait, ou que le patient a un résultat qui est moyen, voire mauvais, il faut savoir chercher si nous, parce que des fois, malheureusement, la chirurgie, même quand on a tout fait bien, ça se passe mal. Des fois, le résultat n'est pas bon, des fois, ça s'infecte, etc. C'est comme ça. Malheureusement, un patient qui s'infecte, c'est pas forcément de la faute du chirurgien. C'est statistiquement, il y en a qui s'infectent, on n'est pas au risque zéro. On n'y est pas. Mais par contre, des fois, il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire, changer, etc., pour avoir un meilleur résultat.
Ça, c'est le doute, ouais. Le double doute.
En fait, voilà. Et en fait, ça sous-tend que derrière, il faut s'instruire de ce que produit la littérature scientifique.
Ah oui, il faut tout taquer sur...
Et si on considère un mauvais résultat comme normal, c'est possible, parce que des fois il y a des fractures qui sont tellement graves que le résultat sera forcément mauvais, en tout cas par rapport aux attentes du patient. Mais faut-il en être sûr? Et pour en être sûr, il faut creuser ce que produit la littérature scientifique.
Et comment vous faites vos choix? Comment vous baladez dans Medline?
Dans PubMed?
Ouais, dans PubMed, ouais, bon, c'était Medline.
C'est des méthodes c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au bout d'un moment, on connaît les mots-clés, etc., à chercher dans les...
Non, mais vous faites par rapport à une opération, ou par rapport à, tout simplement, vous voulez voir les derniers articles, ou alors vous suivez une revue, ou vous suivez un chercheur? Il y a mille façons de se balader dans... Alors, moi, j'étais bibliothécaire, c'est pour ça que je vous pose cette question.
Il y a des chercheurs que j'aime bien et du coup je regarde tout ce qu'ils produisent.
D'accord.
Il y a des revues que je regarde régulièrement parce que c'est des revues à haute indexation et qui sont réputées pour produire des résultats fiables. Et il y a des articles qui font un peu le buzz parce que bah c'est une nouvelle façon de considérer telle ou telle intervention, etc. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est annexe, mais dans la vie de tous les jours, si j'ai une question que je me pose, je tape le mot clé qui m'intéresse dans PubMed, j'écarte toutes les revues à très faible impact factor qui vont produire des résultats qui sont à faible degré de recommandation.
L'impact factor, il est contesté aussi des fois. Des fois, c'est un peu...
Bien sûr. Non, mais je veux dire, les revues prédatrices qui demandent $3,000 pour pouvoir publier dedans, je ne vais pas regarder.
C'est bien. Vous mettez vos articles dans les archives ouvertes ?
Moi, alors, j'ai quelques articles en open access, mais la plupart, non.
Non, d'accord.
Mais je cherche comme ça, je regarde la revue, je regarde l'année, et puis après, si c'est bien, je lis l'article.
D'accord. Peut-être combien de temps vous y passez par semaine, hein?
Par semaine, de la lecture d'article.
Lecture. Veille, on pourrait dire.
Ouais, c'est fou. Au moins 4 heures.
Ah oui,
D'accord. Peut-être plus.
Donc on a vu la bibliographie, on a vu le doute, la suite comme compétence du chirurgien. Moi je pense aux mains forcément, vous allez peut-être contester, mais j'imagine que vous avez la dextérité d'un ébéniste, quoi.
Elle s'acquiert. Je pense que j'ai une bonne dextérité, mais qui s'acquiert. C'est évidemment que c'est pas inné d'avoir une dextérité hors du commun, parce que sinon comment on fait
comment fait le commun quand il doit être hors du commun?
C'est pas ça, mais c'est le concours de l'internat. On n'a jamais,
vous n'êtes pas recruté sur
on coche des cases, on arrive, on est dans le ventre mou de la dextérité de tout le monde, et là d'un coup on doit devenir on doit faire des gestes très
précis. C'est pas un critère pour sélectionner un chirurgien?
Ça serait une catastrophe si on devait choisir que les au contraire, la chirurgie c'est quelque chose qui peut être fait par n'importe qui, mais c'est des gestes qu'on répète et qu'au bout d'un moment on les fait parfaitement. La dextérité c'est le fait d'avoir le geste qui est sous-corticalisé, c'est-à-dire que on n'a plus besoin de réfléchir pour le faire.
Il est implanté, quoi.
Et par définition, il devient très précis. Mais le geste, en fait, on se rend compte que la dextérité, la précision, c'est quelque chose que tout le monde finit par avoir naturellement en répétant des centaines, des milliers de fois la même chose.
Il n'y a pas de chirurgien maladroit, finalement.
Non.
C'est pas ça le problème.
Non.
Quand il y a un problème.
Et d'ailleurs, il y a des gens qui tremblent pas mal et qui sont des excellents chirurgiens. Le tremblement essentiel n'est pas du tout un frein à être un excellent chirurgien, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on fait les choses naturellement. Par contre, là où on peut se tromper, c'est pas forcément la précision du geste, mais dans est-ce que c'est ce geste-là qu'il fallait faire, ce qu'on appelle l'indication.
C'est ça. Et une fois qu'on s'est eu au téléphone, vous me disiez que l'indication, elle surgit bien avant, dans la conversation avec le malade, c'est ça?
Dans la conversation,
le patient,
ou dans l'examen d'une radio, ou etc.
Oui.
Et dans l'appréhension du malade dans sa globalité. Sur ça, c'est l'indication. Et c'est ça qui est difficile. Le geste, tout le monde finit par l'avoir.
Pourquoi ça c'est difficile? Parce que d'abord, oui, les cas, l'humain est déjà toujours particulier. Les blessures sont particulières.
Pour une même fracture, pour 10 patients, il y a 10 façons de faire.
Ah oui. Donc, pendant que vous discutez avec un patient qui vient vous voir pour une opération, c'est ce que vous avez dans la tête, c'est ça, comment je vais m'y prendre, D'accord. Et faut même accéder à son histoire, peut-être.
Ouais, bien sûr. Bah, il faut savoir, des questions qu'on pose tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il est droitier? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il fait du sport? Si oui, quoi? Comment il est tombé? Est-ce qu'il est tout seul à la maison? Etc.
Ok, le diagnostic, ouais. Et là, en plus, vous pouvez prendre à ce stade-là, vous pouvez prendre conseil auprès de collègues.
Je prends très souvent conseil auprès de collègues.
Ouais.
Au moins une fois par jour.
Combien il y a de chirurgiens à la cavale blanche?
Des chirurgiens orthopédistes?
Ouais.
On doit être une dizaine.
Ah ouais. Et à Landerneau, vous êtes...
Les chirurgiens de Landerneau sont tous à la cavale blanche.
Ah oui, oui.
Donc là, aujourd'hui, c'est moi, mais demain, c'est mon collègue qui, aujourd'hui, est à la cavale blanche.
Ouais, c'est une.
Il y a pas de. Il y a personne, mais pour le moment, ce serait bien qu'il y ait, mais pour aujourd'hui, février 2026, il y a pas de titulaire 100% Landerneau pour la chirurgie orthopédique.
C'est sans doute mieux, non?
Bah, ça serait mieux qu'il y en ait.
Ah, ce serait mieux qu'il y ait quelqu'un à 100%.
Oui. Ça serait pas mal.
Mmh. Oui, parce que vous, ouais. En même temps, ça vous oblige à être plus collectif, à connaître plus de matériel.
Ça serait bien qu'il y ait quand même
d'accord.
Un référent.
Oui, c'est vrai, au moins un référent. Hein.
Ou une référente.
Autre compétence qui m'échapperait, il y a une connaissance absolue de l'anatomie, enfin, parce que c'est pas simple, l'anatomie.
Ouais, l'anatomie, c'est, oui, c'est vrai, bien sûr, quand vous disiez qu'est-ce que c'est un bon chirurgien, c'est évidemment, c'est un prérequis qui est tellement évident que, voilà, mais oui, l'anatomie est absolument incontournable.
Comme un ostéopathe, d'une certaine manière, je sais pas, ou un kiné, enfin, c'est oui. Eux, ils connaissent d'autres choses du corps.
Ouais,
vous en savez plus.
je sais pas ce que connaissent les ostéos et les kinés en anatomie, sûrement beaucoup. Mais moi, j'ai pas fait d'études de kiné, donc je sais pas qu'ils apprennent. Mais ils sont très certainement très très forts en anatomie. Mais je peux vous assurer que c'est un prérequis, en tout cas pour les chirurgiens, qui est capital, c'est de connaître parfaitement son anatomie.
Et ça, on l'apprend à l'école.
On l'apprend à l'école, pas assez.
Ah, c'est vrai.
Ouais. Mais l'anatomie, c'est un prérequis qui est incontournable. Et sans quoi, on s'expose à des grosses emmerdes.
Voilà. Ouais, parce qu'il y a des structures, il y a des flux, il y a des. Enfin, c'est gigantesque. Quoi.
Il faut connaître. Voilà. Ouais, faut avoir la carte dans la tête quand on opère. C'est pas possible de faire autrement. C'est impossible de faire autrement. Que d'être chirurgien sans connaître l'anatomie, c'est impensable.
À Brest, à l'école de médecine, j'ai vu une espèce d'iPad, mais très grand.
Ouais.
On rentre dans.
Ouais, c'est très bien ça.
C'est extraordinaire, ouais.
C'est chouette ça, ouais.
Ok, autre type de compétence. Bon, après, c'est plus pour moi, c'est une attitude ou un gens qui pourraient même dire nature, c'est le calme, enfin, la capacité à décider quand les conséquences de ses gestes sont importantes.
Oui, c'est ce qu'on appelle les indications, hein, c'est la capacité à prendre une décision, voilà. Qu'est-ce que je veux faire?
Les indications, c'est au début, enfin, bon.
Ouais, mais non, mais
après, au moment, vous tombez sur quelque chose d'inédit.
Ouais, c'est la même chose. Si on tombe sur quelque chose d'inédit, il faut savoir quoi faire. Ça rentre, en fait, dans les indications. C'est-à-dire que telle structure est lésée. Est-ce qu'il faut ou pas que je la répare?
Eh bien, pour cette première émission, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine émission de Radio U, on va creuser deux aspects qui vous sont spécifiques. Thomas, vous êtes historien, en plus d'être chirurgien, même si vous prenez des précautions sur votre revendication d'être historien. Et la deuxième, c'est que vous prenez, d'une certaine manière, y compris par votre métier d'historien, le low-tech en chirurgie, où la tendance n'est peut-être pas là. Donc, merci Thomas, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.